Père céleste, nous avons ce grand privilège, c'est vrai, c'est pourquoi nous le chantons, de croire, de prier, de marcher dans la lumière de ce jour. Nous ne marchons pas dans les ténèbres, nous sommes des enfants du jour. Aussi, nous avons clairement devant nos yeux de voyons l'accomplissement de ta parole et nous nous en réjouissons. Nous te remercions de nous avoir ainsi mis la lumière, mis en pleine lumière pour que nous puissions comprendre les choses telles qu'elles se passent et nous réalisons combien elles se passent selon ta volonté. Sois béni, sois loué, nous te demandons d'être parmi nous ce soir, passer ces moments-ci avec nous ce soir, selon tes promesses. Nous nous attendons à toi et pour nos nombreux péchés, nous te demandons de nous pardonner. Que ne mette pas un obstacle entre toi et nous et que nous puissions vraiment avoir une pleine communion par le Saint-Esprit à travers de ta parole qui nous sera dispensée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire ce soir dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez des problèmes ce soir, si vous êtes dans la douleur ce soir, la souffrance ce soir, sachez ceci, que les problèmes, nos souffrances, nos douleurs ne font pas réagir Dieu. De toute façon, Dieu savait dès le départ que si on tombait, nous allions devoir affronter toutes ces choses-là, ces problèmes, ces souffrances, ces douleurs. Donc, ce sont des choses qui n'étonnent pas Dieu. Dieu savait très bien que ça allait nous arriver. Ce n'est pas ça qui le fait réagir. Il connaissait les douleurs du peuple. Il connaissait la souffrance de son peuple. Mais il n'est pas descendu. Amen. Ils étaient réduits à une dure servitude. Exode chapitre 1er. Verset 13. « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Malgré la cruauté des Égyptiens, malgré l'amertume de la vie, malgré toutes ces choses, Dieu n'est pas descendu. Mais il dit ceci à Moïse, nous l'avons lu dans Exode 3, j'ai entendu les cris. Amen. Ce sera le titre. J'ai entendu les cris. Il a fallu qu'ils gémissent. Il a fallu qu'ils crient. Que les Israélites crient pour que Dieu réagisse. Exode 2, 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachèrent la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Amen. Ce n'est pas nos souffrances qui sont montées jusqu'à lui, ce ne sont pas nos problèmes qui montent jusqu'à lui, il les connaît déjà. Il sait dans quel problème se trouve l'homme. C'est pourquoi dès le départ, il promet un libérateur. Dès le départ, il nous promet le Messie. Et ce que nous souffrons, nos infirmités, nos maladies, nos problèmes, toutes ces choses, la solution est en ce libérateur, en ce sauveur que Dieu a envoyé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils gémissaient, ils poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements. S'ils n'avaient pas gémi, Dieu n'aurait pas entendu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham. Amen. Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Autrement dit, si vous êtes entouré de ces problèmes, de ces amertumes, de ces souffrances, ce n'est pas ça qui va amener Dieu à vous. Ce sont vos cris. Ce sont vos gémissements. Ce sont vos pleurs qui vont le faire réagir. Donc, il fallait pour cela qu'il gémisse, qu'il crie. Dans Exode 6, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Jusque-là, Pharaon, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais tant que les enfants d'Israël restaient silencieux, ne gémissaient pas, Dieu ne réagissait pas. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. C'est que quand vous ne réagissez pas, c'est que peut-être au-dedans de vous, vous pensez pouvoir vous en sortir seul. Vous devez savoir qu'il y a un Dieu. Un Dieu à qui l'on parle, à qui l'on demande l'aide. Ça, Dieu veut que ses enfants le sachent. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi tu dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. C'est ce que Dieu fait. Il attend qu'on lui demande. Nous savons tous, d'ailleurs, quand nous avons des nouveaux-nés, nous les amenons à l'Assemblée. Nous demandons à ce que l'Assemblée prie pour ces nouveaux-nés. Nous prions pour eux parce que tout homme qui vient au monde, ou toute personne qui vient au monde, homme ou femme, elle vient, il vient au devant des problèmes. Il vient, il rencontrera des problèmes. Nous aurons beaucoup de tribulations dans la vie, mais nous devons savoir qu'il y a un secours quelque part, un secours bien efficace. Donc, Dieu ne réagit pas aux problèmes. Amen. Il réagit à nos cris. Jacques a dit ceci. Nous connaissons ce verset. Jacques 5. Verset 13, juste la première partie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Pose la question. Oui? Si tu es dans la souffrance, ne reste pas là comme ça, bouche fermée, dans la souffrance. Ne reste pas là comme ça, inerte, dans la souffrance. Si quelqu'un est dans la souffrance, Jacques lui dit directement qu'il prie. Votre prière peut faire descendre Dieu, pas votre souffrance. C'est votre prière. Vous lui demandez de vous venir en aide parce que vous ne vous en sortez plus. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il ne reste pas dans la maladie qu'il appelle les anciens de l'Église? Et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Votre prière, vos cris, vos gémissements le feront descendre. Aussi vrai que nous sommes là ce soir. Dieu n'est pas insensible à nos gémissements. Il est plein de compassion. Il est plein de miséricorde. Il a compassion de ceux qui souffrent. Dans Exode toujours, nous voyons les enfants d'Israël en fuite vers la terre promise. Ils arrivent à un endroit où le désert semble les avoir enfermés. Arrivés là, ils n'ont pas d'issue. Exode 14. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Le jour où on aura le temps, on va un peu voir ce qu'il y avait réellement à Pi-Hahiroth, ce qui était réellement Migdol. et Baal Tsephon. Impossible de fuir par là. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Et donc en face d'eux, il y avait la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays parce qu'il n'y a plus d'issue possible. Pour ce qui est de Pharaon, il n'y a plus d'issue possible. Le désert les enferme. C'est comme si vous ne savez plus comment vous en sortir. Jusque-là, Dieu n'enlève pas la mer. Dieu n'enlève pas les montagnes. Dieu n'enlève pas les problèmes. Et puis derrière eux, Pharaon qui vient. Dieu n'empêche pas Pharaon de les poursuivre. Verset 9, les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Voilà ce qu'il faut faire. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils crièrent à l'Éternel. Si vous voulez que Dieu réagisse, criez à lui. N'ayez pas honte. Criez à lui. Bon, ici, ils ont commencé à s'en prendre à Moïse, mais ils devaient crier. Mais Dieu a entendu. Dieu a entendu leur cri. Ils ont commencé à pleurnicher. Ils dirent à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Ça, ce sont, il dit à Job, hein, ce sont des discours sans intelligence. Ce genre de discours. Mais quand on les tient, Dieu entend quand même. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit ? Parle. Parlez. Priez. Dites à Dieu que vous avez besoin de son aide. Dites-lui que vous êtes coincé. Il sait que vous êtes coincé. Il voit que vous êtes coincé. Mais tant que vous ne demandez pas l'aide, c'est que vous n'en avez pas besoin. J'ai besoin de son aide. J'ai besoin qu'il me sorte de là. Lorsque je suis dans une profonde amertume, j'ai besoin, comme dit David, qu'il me donne la joie du salut. Que l'Esprit vienne me faire chanter, me donne cette joie qui me pousse à chanter. J'ai besoin qu'il m'ouvre la porte quand elle est fermée. J'ai besoin qu'il m'ouvre la mer. Je ne lui demande pas d'enlever la mer. Je lui demande de me faire la grâce de passer au travers. Selon la manière que lui-même aura décidé. Donc, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Le reste, Dieu lui-même s'en occupe. Dans son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il était dans la barque avec ses disciples. Une grande tempête s'était levée. Matthieu 8. Ils sont en pleine barque. Une grande tempête s'élève. verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Quel est l'homme normal qui dormirait dans une barque devant une grande tempête en mer? Il vous suffit de vous mettre devant la mer et regarder ces vagues lorsqu'elles viennent et que vous êtes dans une frêle embarcation, telle embarcation dans laquelle nous sommes ici, dans nos corps qui sont fragiles, sujets à des maladies, sujets à toutes sortes de défaillances, hein? Lorsque la tempête, les grosses tempêtes arrivent, il faut vraiment que l'embarcation soit en mesure de passer au travers de cette tempête. Mais lui, pendant que tous les hommes sont effrayés, pendant que tous sont apeurés, lui, il dort. Ça veut dire que les problèmes que l'embarcation rencontre ne l'empêche pas de dormir. Lui, il dort. Le vent peut souffler. La mer peut émettre un bruit. Les vagues peuvent faire monter l'embarcation et le faire redescendre de 10 mètres. Lui continue à dormir. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher de dormir. Mais ce qui l'empêche de dormir, c'est quand ses enfants crient. C'est quand ses enfants se mettent à genoux et se mettent à lui parler de leurs problèmes, à se mettre à lui dire combien ils souffrent. Combien ils encaissent. Ça le fait réagir. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent. Les disciples ont réussi à le réveiller au milieu de cette tempête et dire, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Oui, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il a menacé le vent et la mer parce que les vents et la mer mettaient ses enfants en danger, mettaient ses disciples en danger. Et quand vous êtes en danger, Dieu est sensible. N'attendez pas que le danger soit passé. Il est bon quand on sort de prier pour que Dieu ouvre la voie là où on va, qu'il garde notre départ et notre arrivée, n'est-ce pas? Mais n'attendons pas être dans le voyage pour commencer à parler. Il faut parler à Dieu avant de sortir. Dieu sait que chaque sortie que nous faisons est sujette à danger. Il le sait. Il sait que chaque voyage que nous faisons est sujet à danger. Il est bon de demander à Dieu, « Seigneur, je vais voyager. » Il ne faut pas qu'on prenne cela comme étant naturel. Nous devons savoir après chaque voyage, nous devons savoir après chaque sortie, lorsque nous sommes prêts à entrer dans nos lits, nous devons savoir que c'est une grâce. Surtout si on ne lui a rien demandé avant de sortir. Alors, c'est réellement une grâce. Pour les gens du monde, les gens trouvent ça normal. Mais il y a parfois de ces sorties où on dit, c'était son destin. Le destin qui le tient en main, c'est Dieu. Oui. Donc, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Oh, il dormait. Donc, ce n'est pas la tempête qui l'a réveillé, ce ne sont pas les vents qui l'ont réveillé, ni la mer, mais ses disciples. Ne restez pas là à dire, de toute façon, Dieu voit mon problème. Oui, c'est sûr qu'il le voit. C'est sûr qu'il le voit. Mais maintenant, si vous dites, ben, moi je suis un privilégié, je veux m'en sortir de moi-même, ça ne marchera pas. Il est certain que Dieu voit vos problèmes. Il est certain que Dieu voit votre malheur. Il est certain que Dieu voit vos douleurs. Mais il attend une chose. Si vous avez besoin de guérison, il attend une chose, que vous lui parliez. Jacques dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il ne reste pas inerte. Qu'il appelle les anciens. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il ne reste pas inerte. Qu'il prie. Dieu entendra sa prière. Restez pas là à dire, de toute façon, Dieu voit ma souffrance. Il voit la souffrance du monde telle qu'elle est là aujourd'hui. Il voit combien nous trimons tel que nous sommes là ce soir. Il voit. Mais pour ce qui est de sa venue, ne restons pas là. Oui, Jésus viendra, Jésus viendra. C'est vrai, il a dit qu'il viendra. C'est vrai, il a dit qu'il prendra soin de nous. Mais nous devons quand même faire comme Jean dans Apocalypse, hein, dire, Seigneur, viens. Nous devons hâter sa venue. Vous connaissez le verset, hein? Où c'est le dernier verset de la Bible. Où Jean dit, Seigneur, viens. C'est ce que nous attendons. On ne reste pas là à attendre inerte. Quand Jésus dit, veillez et priez. C'est ce que nous devons faire. Dans Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ah, tant que c'est Jésus qui m'envoie, il ne m'arrivera rien. C'est vrai, mais si c'est lui qui vous envoie, sachez qu'il y a des dangers devant. Et il le sait. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Maintenant, ceux qui étaient dans la barque déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Alors que c'est Jésus qui leur a demandé de traverser, lui qui parle, dans Matthieu 8, ils l'ont vu, il parle au vent, il parle à la mer, il pouvait dire au vent, laisse mes disciples tranquilles pour qu'ils puissent traverser. Il pouvait dire à la mer que mes disciples fassent une traversée sans encombre. Mais il ne dit pas à la mer. Il ne parle pas au vent. Et pour lui, ce vent contraire et cette mer agitée n'avaient pas d'effet sur lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait sur la mer. Lui, il marche sur les problèmes. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Cette mer en furie, lui, il est là, à marcher tranquillement dessus. Parce qu'il a le pouvoir sur la mer. Il a autorité sur la mer. Ouais. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Quand ils ont poussé des cris, Jésus a réagi en leur faveur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Nous ne devons pas rester là comme cela, inerte. Il y a un dialogue entre lui et nous qui doit être fait. D'ailleurs, il dit à Israël, avant qu'on voie Job, il dit à Israël, tout dans Exode 6, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous charge les Égyptiens. Ce n'est pas vous-même, c'est lui. Il dit à Israël aussi ailleurs, il dit, vous saurez que je suis l'Éternel. Nous devons savoir que c'est lui qui est Dieu. Il est Dieu. Vous savez, Job, dans sa souffrance, il n'est pas resté inerte. Job a beaucoup parlé. Job s'est posé beaucoup de questions. Et il a dit des choses. Si je savais où il est, j'irais jusqu'à le voir. Il a dit plein de choses que Job a dites dans sa souffrance. Dieu semblait rester silencieux. Déjà, lorsque les vents sont venus et ont tout balayé sur le chemin, eh ben, Dieu semblait ne rien faire. Jusque-là, Job ne disait pas grand-chose. Mais Job a commencé à parler. Au chapitre 3 déjà de Job, nous voyons Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et a commencé à parler. Job a parlé. Vous savez, pendant que vous parlez, Dieu vous entend. Même si les choses que vous dites ne sont peut-être pas très plaisantes à Dieu, mais tant que vous êtes ses enfants, il sait très bien combien ces souffrances peuvent vous faire dire des choses qu'il ne faudrait pas. Il ne retire pas sa miséricorde. Il a compassion de qui il a compassion. Job va parler et il va parler. Finalement, Dieu va venir lui répondre. Au chapitre 38, Dieu ne va pas lui répondre du haut des cieux. Dieu est descendu jusqu'au milieu même de la tempête. Parce que la tempête ne se trouvait pas dans les cieux, c'est Job qui était en pleine tempête. Aussi, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Comme disait le frère du Zimbabwe, la solution à votre problème est dans le problème. La solution à votre amertume est dans l'amertume elle-même. Et Dieu va lui dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est un terrain. Et Dieu va lui montrer qu'il est Dieu. Qu'il est au-dessus de toutes ces choses. Il faut que nous sachions qui il est réellement et de quoi il est réellement capable. il rappelle à Job que c'est lui qui a fondé la terre. Au verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Cette terre-là sur laquelle tu marches, où étais-tu? Dis-le si tu as de la tête, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Avons-nous jamais réfléchi à cela? Que la terre sur laquelle nous marchons, c'est Dieu qui l'a créée. Avons-nous jamais réfléchi au fait que les cieux, c'est Dieu qui l'a créé, qui les a créés? Le soleil qui nous éclaire, c'est Dieu qui l'a créé. Les étoiles que nous voyons, c'est Dieu qui les a. Et Dieu les maintient à leur place de par son autorité. Dieu a autorité sur toute chose, sur sa création. Rien ne lui échappe. Ce qu'il veut, il veut que nous réagissions, que nous puissions constater que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes impuissants devant ces choses qui nous arrivent, que nous puissions demander son aide. Nous n'avons pas à nous attendre à l'homme, nous nous attendons à Dieu. Lorsque je suis malade, ce genre de maladie opiniâtre, je n'ai pas à m'attendre à l'homme en blouse blanche qui est là-bas. J'ai à m'attendre à Dieu. Je n'ai pas à m'attendre à l'homme pour tel ou tel arrangement de telle chose. Je dois m'attendre à Dieu parce que Dieu est souverain. Jonas, Dieu lui donne l'ordre d'aller à Ninive. Jonas. Chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors, nous savons ce qui va arriver. Une grande tempête va arriver. L'Éternel, c'est lui qui fait venir la tempête. La tempête, eh bien, l'Éternel va faire souffler sur la mer un vent impétueux. Vous voyez qu'il a pouvoir, qu'il a autorité sur les vents. Si le vent a soufflé sur vous, Dieu l'a permis. Peut-être vous n'avez pas désobéi comme Jonas, mais Dieu veut vous montrer quelque chose. Ici, si Jonas a désobéi, Dieu a tiré de sa désobéissance une leçon dont nous pouvons nous en servir aujourd'hui. Et cette désobéissance nous permet aussi de voir que Christ va faire 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, n'est-ce pas ? Au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jésus va en parler plus tard. C'est alors, une fois dans le ventre du poisson, que Jonas a commencé à parler. Quand il a commencé à parler, Dieu l'a entendu. Et Dieu a agi en sa faveur. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. » Quand on vous dit que nos cris le font descendre, nos cris le font réagir. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Vous parlez d'un problème. Toutes les vagues, tous les flots ont passé sur lui. Il était vraiment dans une sale situation. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Eh bien, par après, nous voyons au verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Alors, qu'est-ce que l'Éternel fait ? Il parle au poisson. Qui était le problème de Jonas ? Le poisson. Dieu parle au poisson. Dieu parle à vos problèmes et leur dit, lâche-les, lâche-le, lâche-la. C'est un ordre, c'est un ainsi dit le Seigneur. C'est une intervention divine. Laisse mon fils tranquille, laisse ma fille tranquille. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et vous verrez même que finalement, votre problème, c'est ça qui finira par vous aider. Mais en ce moment-là, où le vent soufflait, vous vous sentiez tellement seul. Vous vous sentiez tellement loin de Dieu. Vous vous sentiez tellement Dieu loin de vous, comme s'il n'entendait pas vos prières. Dieu entend vos prières. Il entend plus vos prières qu'il ne voit vos problèmes. Parce que vos problèmes sont des problèmes pour vous, mais pas pour lui. Si je me retrouve devant un lion, c'est un problème pour moi, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Le fait de me retrouver devant un lion, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais c'est un problème pour moi. C'est moi qui ai des problèmes. C'est à moi de trouver l'aide dont j'ai besoin. Seigneur, j'ai devant moi un lion. Et Dieu parlera au lion. C'est ce que Dieu peut faire pour vous et pour moi. Pour vous et pour moi. Dieu nous entend. Dieu voit nos souffrances. Dieu voit nos douleurs. Il voit la vie amère que nous menons. Il voit ça. Mais ce qui rend moins amer, ce qui rend doux la vie, c'est... Nous allons terminer. Dans Exode chapitre 15. Ils avaient soif. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Skur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Il y a des périodes dans la vie où la vie devient amère. Difficile de supporter. Tellement amère qu'on ne peut pas boire cette eau. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Qu'est-ce qui va faire réagir à Dieu ? Dieu savait que les eaux de Mara étaient amères. Il savait, il connaissait les eaux de Mara. Mais il voulait que ses enfants crient à lui. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Voilà ce qui adoucit l'amertume de la vie, le bois du calvaire. Si seulement nous pouvons poser notre regard là-bas, là-bas, au loin, au calvaire, nous voyons la souffrance de Jésus-Christ, nous comprendrons combien les nôtres, nos souffrances sont douces par rapport à ce que lui a souffert. Vous savez, je pensais à ceci tout à l'heure, les gens qui criaient « crucifie, crucifie ». Je me suis posé la question, ce centenier romain dont le serviteur avait été guéri, où était-il? Bartimée, mendiant aveugle, pendant que la foule criait, où était-il? Tous ces gens à qui il a fait du bien, c'est lépreux qu'il avait guéri. Personne pour le défendre, quasiment, ou alors ils se sont tus, n'ont rien dit, n'ont pas osé. Mais il a fait du bien aux gens, peut-être pas à eux directement, mais à des êtres qui leur étaient chers. Et c'était ceux-là qui criaient, crucifie, crucifie. Frère Branham me dit, c'est plus ça qui l'a tué que les clous et la croix. Ces gens à qui il a fait du bien, qui étaient là à crier, à hurler, demandant sa mort, ça lui a fait tellement mal. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Vous voyez? Donc, ce qu'il y a, je ne sais pas par quoi vous passez. Ou j'en connais un peu en surface, mais parfois c'est plus profond. Mais lui sait. Parlez-lui. Dites-le lui. On peut vous prendre pour un fou, pour une folle, mais vous savez que vous n'êtes ni fou, ni folle. Vous parlez à votre Dieu. Il vous entend. Quand il vous entend, vous vous réjouissez. Parce qu'il ne vous laissera pas dans ce trou-là comme ça. Il est celui qui console. Il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Il est celui qui nous rend la vie plus, comment dirais-je, la vie plus abordable. Parce que la vie ici sur terre, c'est un véritable combat. C'est un combat difficile. Mais c'est sur lui que nous comptons à tout moment. Et Dieu attend que nous lui en parlions. Dieu veut que nous lui disions, que nous reconnaissions chaque fois que nous nous en sortons d'un problème, que nous puissions reconnaître, c'est par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Prions au Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce soir pour te dire merci pour toutes choses et nous voulons te remettre nos vies entre les mains, sous ton contrôle, nos décisions, que tu nous aides à les prendre, que tu éclaires notre sentier afin que nous puissions marcher droit là où tu veux que nous allions. Merci pour le secours que tu nous assures à chaque pas de notre vie. Merci pour la protection. Merci pour la guidance. Merci pour tout cela. Car nous savons que tout est sous ton contrôle, que tout est sous ton autorité. Et nous sommes si heureux de savoir que quand nous crions, tu entends. Quand nous crions, tu agis. Quand nous crions, tu as compassion. Aide-nous, à chaque fois que nous crions à toi, que nous puissions le faire d'une telle manière que nous puissions toucher tes entrailles de miséricorde, afin que tu aies compassion de nous. Pour tous nos besoins, nous nous en remettons à toi. Et si tu tardes à venir, nous nous en remettons aussi à toi pour que nous soyons encore plus instruits, que nous puissions voir ta venue approcher chaque jour et ainsi à nous préparer comme il le faut pour que nous ne soyons pas surpris comme ô Dieu pour ce jour-là. Nous attendons cela, pas avec impatience, mais avec la patience que tu nous auras donnée. Parce que tu as dit que nous devons faire tous nos efforts à ajouter à notre foi, à avertir tout cela, cette patience, la patience à tes promesses. Nous voulons être patients comme Abraham l'a été, patients comme Moïse l'a été, tous ces héros de la foi qui savaient que ce que tu avais dit que tu ferais, tu étais plus que capable de l'accomplir. Merci, Père, de nous raccompagner chacun dans nos maisons ce soir. Bénir ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Tu les bénisses également. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse.